Maintenant, on va tous fermer nos yeux. On va fixer nos yeux sur lui. Fixons nos yeux sur lui. On va chanter simplement « Viens Saint-Esprit, fais tomber ton feu. » Viens Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Le feu de Dieu qui purifie. Le feu de Dieu qui répond aux problèmes. Le feu de Dieu qui embrase. Le feu de Dieu qui change les vies. Dieu veut vous toucher ce matin. Dieu veut changer vos vies et vous amener plus loin. Dieu veut vous amener plus loin, c'est sa volonté parfaite. Chantons, viens, viens Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Alléluia. Comme des enfants. Le Saint-Esprit cherche des enfants. Fais tomber ton feu, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Viens, Saint-Esprit. Fais tomber ton feu. Viens Saint-Esprit. Fais tomber ton feu. Alléluia, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Fais tomber ton feu, Saint-Esprit. Fais tomber ton feu. Pendant que la musique continue, nous allons le parler. Dieu répond à la soif. Dieu répond à une chose, il répond à la soif. Est-ce que ce matin tu as soif de Dieu? Si tu as soif, Dieu va répondre ce matin. Et tu vas sortir d'ici un homme, une femme changée. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Viens Saint-Esprit, nous t'accueillons. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Seigneur, tu cherches une jeunesse qui se purifie. Oui, tu cherches une jeunesse, un sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu cherches une jeunesse, Seigneur, qui te plaît. Oui, Jésus, tu cherches une jeunesse qui te plaît. Une jeunesse qui t'est agréable. Saint-Esprit, tu cherches un homme, une femme. Saint-Esprit, tu cherches un homme, une femme. Un homme, une femme. Oh, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Empare-toi de ce lieu maintenant. Viens nous changer, Jésus. Empare-toi de nos vies. Empare-toi de nos vies, Jésus. Viens nous changer, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Tu es la source de vie, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu, Seigneur. À qui irions-nous sinon qu'à toi? Tu as les paroles de la vie, ô Seigneur. Nous nous attendons à toi. En dehors de toi, tout est vanité. Mais en lui, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli pour toi, mon frère, ma sœur. Sache que tout est accompli. Il veut te donner sa paix, son amour et sa joie. Car il a tout accompli pour toi, pour toi, pour toi. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Et son feu est là ce matin. Son onction est là pour vous renouveler. Seigneur, tu as tout accompli. Tu as tout accompli, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Chantez avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, nous t'aimons. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout le cœur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Ouvrons nos cœurs maintenant, Saint-Esprit. Tu vas nous parler. Tu vas nous parler. Et ta parole est puissante pour changer les vies. Seigneur, nous allons prendre une décision ce matin. La décision de te suivre pleinement. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs maintenant. Et nous te permettons d'entrer, Saint-Esprit. Et nous disons ensemble, Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs. J'ouvre mon cœur. Et je te permets de venir changer ma vie dans le merveilleux nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous encourager, vous exhorter. Vraiment, ouvrez vos cœurs, parce que le Seigneur répond à la soif qu'il y a dans votre cœur. Il répond pas à autre chose qu'à la soif qui est en vous. Vous savez, il y a beaucoup de modes dans ce monde. Quand j'étais au collège, c'était la mode des kickers, je sais pas si vous connaissez. Et tout le monde voulait avoir des kickers. Et après, un an après, c'était les caterpillars. Alors j'ai attendu pendant des mois et j'arrivais pas à acheter des caterpillars. Alors j'étais dégoûté, mes copains, ils avaient tous des caterpillars. Et un jour, il y avait dans une brocante, un gars qui vendait des caterpillars. Je les ai achetés, mais c'était plus la mode. Et les modes, elles sont comme ça, elles passent, elles viennent. C'est pour ça que si vous lisez l'Ecclésiaste, il y a quelques années, quand je lisais l'Ecclésiaste, je comprenais rien. Mais pourquoi il dit ça? Tout est vanité, tout est vanité. En fait, il voulait simplement dire que tout est vanité dans les modes. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas aux modes présentes. C'est-à-dire quoi? Ne vivez pas votre vie en fonction de ce qui se vit actuellement. C'est quoi la mode en ce moment? C'est quoi? C'est la Starac? Qui c'est qui regarde la Starac là? Personne? Ah, vous avez honte, hein? Non, en ce moment c'est Prison Break. Ah là là. La gloire de Dieu pendant que tu regardes ce film descend sur toi. Tu peux ressentir le Saint-Esprit qui est content quand tu regardes ça. Donc il y a beaucoup de modes. Mais ces modes passent, elles reviennent. Mais Dieu nous demande d'être transformés dans notre intelligence. Parce qu'il veut mettre ses pensées en nous. Parce que ses pensées sont merveilleuses. En fait, les gens veulent devenir et veulent plutôt paraître grands. Depuis l'origine des temps, l'homme et la femme veulent paraître plus grands qu'ils ne sont. Ils veulent paraître plus grands et plus forts qu'ils ne sont. Ça commence à 4 ans, vers 4-5 ans, où vous demandez à des enfants « Quel âge tu as ?» Tu dis « J'ai 4 ans et demi. » Mais bientôt, dans 10 ans, j'aurai 14 ans et demi. Ou alors il te dit « J'ai 4 ans et 7 mois, j'aurai 5 ans. » Puis après, vers 7-8 ans, il commence à vous dire « Regarde ce que je sais faire, regarde ce que je sais faire. T'as vu, je suis intelligent, hein, je suis intelligent. » Et puis après, ça continue à 10 ans, les enfants construisent des cabanes avec deux planches et quatre clous rouillés. Et ils pensent avoir fait la plus belle cabane du monde. Puis ça continue à 12 ans, on commence à prendre une allure fière. En marchant au collège et dans la cour du collège. Et là, on commence à porter des habits avec des clous. Bon, ça dépend des gens. Mais bref, on commence à avoir une allure qui est fière. Puis ça continue. À 15 ans, on aimerait en avoir 18 pour aller en boîte de nuit. Moi-même, quand j'avais à peu près 15 ans, j'arrivais au collège et plusieurs fois par mois, quand j'entrais dans le collège, je disais « Voici, t'es dans ton royaume et tu fais ce que tu veux. » Et effectivement, je faisais ce que je veux.
pour ça que je me suis fait virer pas mal de fois. Une fois, je me suis pris 24 heures de colle d'un coup, et j'ai dû aller à la police aussi. Voilà ce que font les jeunes. Et donc, on aimerait en avoir 18 quand on a 15 ans, et alors on commence à mal parler à ses parents. Vas-y, qu'est-ce que tu veux là? Vas-y, bouge là, qu'est-ce que tu veux? Et bref, on commence à s'embrouiller. Vas-y, bouge de là, toi. Et on parle en verlan. Voilà. Et ne parlons pas des filles qui ne mesurent pas 1m57, mais 1m57 et demi. Le demi est très important. Sinon, vous pouvez pas entrer dans l'avion et devenir hôtesse de l'air. Ou alors, il a 10 ans, mais il pense en avoir 14, et en fait, il part comme ça. Alors, des fois, il y a sa voix qui est muée et qui part dans tous les sens. Bref, et ça continue. À 18 ans, on pense plus qu'à une chose, c'est de pouvoir se garer devant le collège ou le lycée avec sa Porsche. Mais malheureusement, la Porsche ne vient jamais. Au mieux, ce sera une 205, comme j'ai eu. Mais ce sera jamais une Porsche. Et puis, ça continue ainsi et ainsi. Plus tard, l'effet, en fait, est inverse. Et à 40 ans, on a plutôt l'habitude de dire qu'on en a 39. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Les gens veulent paraître grands. Et même s'ils disent plus « j'ai 45 ans », puisque ils préfèrent dire « j'ai 39 ans », en eux, ils ont toujours ce désir d'être plus grands. Alors, ils veulent devenir le plus riche. Ils veulent slalomer entre les voitures et quand quelqu'un leur colle, soit ils freinent ou soit ils accélèrent à fond, ils font la course. Ou soit ils veulent avoir une plus belle voiture que leurs amis. Bref, ils veulent paraître grands. Et ça, ça remonte, vous allez lire avec moi, dans Ésaïe 14, dans l'Ancien Testament. C'est pas quelque chose de nouveau, les modes, mais je veux pas vous parler des modes précisément. Mais la plus grande des modes, c'est le fait de vouloir paraître grand. Cette mode, elle a subsisté. La pop star, etc., ça s'est passé un peu. Mais cette mode-là, elle a subsisté. Elle est toujours là. Dans Ésaïe 14, nous lisons Ésaïe 14, 10, et ça nous parle du diable, en fait. Avant, je me demandais, bon, je voyais le diable dans le jardin d'Éden, je voyais le diable dans le désert qui a tenté Jésus, mais au-delà de ça, je ne savais pas d'où le diable venait, pourquoi le diable était là. Et en fait, ici, dans Ésaïe 14, et ce compte des stylos, vous pouvez prendre des notes, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, vous allez voir, on vous parle du diable ici. Voilà, Ésaïe 14 dit, tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, diable, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous, ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi s'étend une couche de vermine, et les vers sont ta couverture. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, ça nous parle du diable. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'éleverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Voilà que le diable, en fait, c'est lui qui a donné ce sentiment et cette volonté à l'homme de toujours vouloir paraître plus grand. Le diable s'est dit, je vais être plus grand que Dieu. Et voilà, je vais siéger au-dessus de Dieu. Et je vais mettre Dieu sous mes pieds. Mais vous connaissez comme moi, la Bible nous dit que le diable a été projeté sur terre avec un tiers des anges. Voilà pourquoi il se trouvait dans le jardin d'Éden. Le diable n'était plus à côté du trône de Dieu. Lui qui était un ange qui s'occupait de la louange, vous pourrez lire ça, le son de tes luttes, etc. Voilà qu'il était précipité au sol. Donc c'est pas nouveau cette volonté de devenir et de paraître plus grand. Le diable lui-même a voulu paraître plus grand, mais il a tout perdu finalement. On va lire dans Matthieu 18 au verset 1. Matthieu 18 verset 1. Il y a vos pages qui se collent, c'est parce que vous lisez pas, c'est la Bible. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Voilà, nous connaissons maintenant la volonté de Dieu, la volonté du diable. La volonté du diable, c'est que nous puissions paraître grands et être plus forts et plus grands que tout le monde et mettre tout le monde sous nos pieds. Mais la volonté de Dieu, c'est bizarre, mais c'est de devenir des enfants. Peut-être vous auriez voulu entendre un message qui vous dirait de devenir des hommes forts et des femmes fortes. Mais Dieu nous dit de devenir des enfants et de redevenir des enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Si votre cœur devant Dieu est comme celui d'un enfant, vous allez voir des choses extraordinaires se passer dans votre vie. Mais le monde nous a appris à paraître plus grand. Le monde nous a appris à écouter et à regarder des choses de grand. Vous connaissez Skyrock et D-Fool? Vous savez, ça c'est une mode qui, déjà quand j'étais au collège, ça fait 5-6 ans, ou peut-être plus, il y avait déjà cette émission-là et tout le monde écoutait ça. Vous savez, l'animateur, il a toujours le même âge, lui. Il parle toujours à la même tranche d'âge de personne, c'est-à-dire 13-18 ans. Et il est là en train de dire tout un tas de choses qui sont pas du tout édifiantes. Finalement, le monde nous apprend à paraître plus grand, à regarder des choses de grand, à aller sur Internet et aller voir des choses, entre guillemets, de grands, que même les grands ne devraient pas regarder. Et le diable nous apprend finalement à devenir notre propre maître, au lieu de devenir enfant de Dieu. Le diable nous apprend à ne plus avoir de maître, en fait, mais à devenir notre propre maître. Je choisis ce que je veux, je fais ce que je veux. Alors nous allons voir redevenir un enfant. On va voir aujourd'hui maintenant trois bonnes facettes de l'enfant. La première facette qu'on va voir, c'est que l'enfant est saint et sans péché. La deuxième facette, c'est que l'enfant n'est pas religieux. Et la troisième facette, c'est que l'enfant croit tout ce que Dieu dit. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent vivre une vie qui plaît à Dieu. Moi-même, quand j'étais au collège, je pensais vivre une vie qui plaît à Dieu, mais j'avais complètement laissé de côté l'histoire du péché, ça me plaisait pas trop, la sanctification. Et quand j'ai rencontré ma femme, il y a 4 ou 5 ans, je lui ai tout de suite dit que j'étais chrétien, alors que les circonstances, c'était dans une fête avec des amis, et j'avais un peu bu. Les circonstances étaient totalement contraires, mais je lui ai dit que j'étais chrétien. Je ne vais pas vous condamner ce matin, hein. C'est pas un message qui va vous condamner, ça va vous exhorter. Mais vous savez, on peut pas se moquer de Dieu. La Bible dit que si tu te dis chrétien et que tu vis comme un païen, tu rends Dieu menteur et tu mens toi-même. Alors je lui ai dit tout de suite ça. On va lire dans 1 Jean, c'est à la fin de la Bible. Il y a certaines choses que je vais dire, souvent les pasteurs ils osent pas dire parce que ils ont peur que les parents viennent et leur tapent sur les doigts. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et voilà, c'est ce que je faisais. Au collège, j'ai rencontré quelqu'un et en fait, j'étais en train de manger. Et à côté de moi, il y a un gars qui disait qu'il avait fait, vous savez, il faisait du scout et il disait « je suis protestant ». Alors moi, tout de suite, je suis allé le voir et j'ai dit « bah moi aussi, je suis protestant ». Parce que bon, je parlais plus de ma religion, de ce que je vivais avec Dieu, que réellement, je vivais pas grand-chose avec Dieu. Et je lui ai dit « bah moi aussi, je suis protestant ». Et en fait, voilà, deux chrétiens qui se rencontrent. Et finalement, ça a donné quoi? Ça a donné que tous les vendredis matins, je commençais à 10h, mais de 8h à 10h, je fumais des joints avec cet ami. Alors toutes les semaines, on essayait de fumer des joints de plus en plus grands. Au début, c'était une feuille, après deux feuilles, trois feuilles, deux feuilles cordes, trois feuilles cordes. Et voilà ce que font parfois deux chrétiens qui se rencontrent. Au lieu de parler du Seigneur et de s'édifier, voilà ce qu'ils font. Mais j'avais pas fait d'expérience personnelle avec Dieu. Et tout à l'heure, on va voir comment on fait cette expérience avec Dieu. Qu'est-ce que sont les ténèbres? On va lire dans Genèse au chapitre 1. Tout au début. Genèse chapitre 1, du verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, est-ce que Dieu a créé les ténèbres? Non, Dieu n'a pas créé les ténèbres. Mais quand le diable a été projeté sur terre, voici que les ténèbres ont été amenées sur terre. Voilà pourquoi il y avait les ténèbres et la lumière. Parce qu'on peut se demander, mais est-ce que Dieu crée les ténèbres? Est-ce que c'est Dieu qui crée les problèmes de ma vie? Est-ce que c'est Dieu qui crée les problèmes de ma famille? Est-ce que c'est Dieu qui m'amène des gens, des filles, des garçons, pour que je sorte avec eux, pour que je fume des gens avec eux? Non. Retenez une chose, il y a les ténèbres d'un côté, il y a la lumière d'un autre. Les ténèbres ou la lumière. C'est tout. Ténèbres ou lumière. Dès le début de la création, nous voyons qu'il y avait d'une part des ténèbres, et de l'autre côté, la lumière. Mais Dieu a demandé à Adam de choisir entre le bien et le mal. Genèse toujours, chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu, mon Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En fait, Dieu avait créé un endroit merveilleux. Les scientifiques disent que Dieu a mis des millions et des millions d'années. Vous savez, Dieu n'a pas mis 24 heures pour faire la lumière. Dieu n'a pas mis 24 heures pour faire l'eau. Non, il a mis des millions et des millions d'années. Et Dieu a créé un endroit merveilleux, magnifique. Il a mis l'eau, il a mis la lumière, il l'a séparé d'avec la nuit, il a mis les étoiles, il a mis les animaux, il a fait quelque chose de tellement, tellement, tellement merveilleux. On croit parfois que le jardin d'Éden, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'était un endroit merveilleux. Et pourquoi il a fait ça? Dieu a réfléchi, il a médité, il s'est interrogé. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont réunis. Et ils ont créé un endroit merveilleux afin que tu puisses vivre une vie merveilleuse. Et Dieu a dit, voici, je vais faire l'homme à mon image et à ma ressemblance. Et Dieu a créé l'homme. Voilà pourquoi tu es à la ressemblance et à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme et il a dit... Alors qu'il avait dit des autres choses qu'il avait créées, qu'elles étaient bonnes, il a dit « Voici, je crée l'homme, c'est très bon. » Il a trouvé ça très bon, il t'a trouvé très bon. Et il a dit à Adam et Ève « Tu choisis entre le bien et le mal. » Voici qu'ils étaient dans le paradis. Il y avait le bien à côté, comme si cette porte c'était le bien, comme si cette porte c'était le mal. Il leur a dit, voici, vous choisissez. Soit vous allez là, là c'est le bien, si vous y entrez, vos rêves les plus fous vont se réaliser. Ou soit vous allez là-bas, et quand vous allez entrer, il y a des gens qui vont venir, qui vont vous donner un coup de poing, ils vont vous matraquer la tête, et ils vont vous faire très mal. Qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce que tu choisirais? Tu choisirais quoi? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui irait là-bas? La Bible dit, Jésus frappe à la porte de ta vie. Mais vous inquiétez pas, c'est pas lui qui est derrière et qui vous frappe. Il est là. Bref, on choisirait tous la même chose. On irait là. On irait au paradis. Mais bon, Adam et Ève ont choisi autrement. Et on va lire dans Genèse 3, au verset 1, ce que Ève a choisi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, donc c'est le diable qui parlait, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme a répondu au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant à ce fruit-là, de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. » Vous savez, le péché, ça ne se caresse pas. Il y a des gens, parfois, ils disent, « Bon, il y a un demi-péché, il y a un quart de péché. » Mais le péché ne se caresse pas. « De peur que vous ne mouriez. » Dieu n'est pas un Dieu de loi, de préceptes, de commandements. Ça, ce serait de la religion, et la religion, ça pue. Vraiment, la religion, ça pue. J'ai vécu religieusement pendant des années, j'allais pas très loin spirituellement, et mes amis, j'étais triste et malheureux, parce qu'on me parlait de Dieu, mais j'avais aucune expérience avec lui. Alors le diable, le serpent, dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir, et que vous serez comme des dieux. Voilà, vous allez paraître très grand, connaissant le bien et connaissant le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à sa vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu quelque chose qui lui paraissait agréable pour son corps, pour sa chair. Quelque chose qui était agréable à sa vue, et quelque chose qui était agréable pour sa propre fierté, devenir comme Dieu, avoir le tout discernement. Et voilà ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui te dit « Tu devrais fumer ce joint, parce que vraiment ça va t'amener très très loin. » Plus loin que la présence de Dieu. Vous savez, vous connaissez la religion des Rasta? Vous savez, Bob Marley, etc. Cette religion-là, c'est des gens qui croient en l'Ancien Testament. Et en fait, ils disent que pour s'approcher de Dieu, il faut fumer des joints. En fait, c'est parce qu'ils se mettent en extase, ils fument des joints, ils sont complètement détraqués à la fin. Voilà ce que disent ces gens-là. Et en fait, le diable fait toujours la même chose. Depuis des millénaires. Il dit aux gens, voici. Et quand des jeunes te disent, bah tiens, fume ce joint. Alors tu peux dire, ouais, ça paraît agréable à ma vue. Apparemment, ils ont l'air d'être bien. Ça paraît agréable à mon corps, et aussi je suis mon propre maître. Donc c'est bon pour ma fierté. Voilà, je parais plus grand maintenant, etc. pour l'alcool et pour d'autres choses. Qu'est-ce que sont les ténèbres? Les ténèbres, ce sont simplement tout ce qui vient du diable. Les ténèbres, c'est tout ce qui vient du diable. Tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Maladie, pauvreté, etc. et le péché. Le diable vient toujours à nos oreilles pour nous faire croire, nous faire paraître que ses plans à lui sont meilleurs que les plans de Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Le diable nous fait croire que ses plans, que si on le suit, on aura une meilleure vie que celle vécue avec Dieu. Dieu a tout fait à merveille. Mais comme il n'a pas voulu que tu sois un robot, il nous a donné simplement un libre arbitre. Alors voilà trois choses. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça nous parle de la convoitise de la chair. Agréable à la vue, la convoitise des yeux, et propre à donner du discernement, orgueil de la vie. Quand tu te trouves devant une situation où tu as un choix, soit entre le péché et l'obéissance, il y a toujours au moins une seconde, un temps plus ou moins court, où tu es là et tu sais que si tu fais ça, tu vas pécher. Dieu a mis en nous une conscience, non seulement un libre arbitre, mais une conscience. C'est-à-dire que quand tu te trouves devant un péché et devant la possibilité de pécher, tu sais pertinemment au fond de toi, et tu le sais, et tu le sais, et tu le sais que c'est mauvais. Mais à ce moment-là, tu choisis plutôt d'aller à droite que d'aller à gauche. Il y a toujours un moment où quand tu te retrouves devant le péché, ta conscience te dit « ça c'est mauvais ». Ça se passe souvent en quelques secondes. La plupart des grands péchés se sont passés comment? S'il y a grand péché, petit péché. Mais la plupart des gros péchés pour nous, hommes, ça s'est passé en quelques secondes. Les meurtres se passent en quelques secondes. Les viols se passent en quelques secondes. Les adultères se passent en quelques secondes. Et d'autres choses que je ne vais pas citer se passent en quelques secondes. Et en fait, quand tu te retrouves dans le péché, il y a des gens qui disent « je me bats avec le péché, je me bats avec le péché ». Ils me sautent dessus comme ça. Mais non, le péché ne te saute pas dessus comme ça. Soit tu vas ouvrir la porte au péché, tu vas commencer à ouvrir la porte, ou soit tu vas ouvrir la porte au Seigneur. Et en fait, tout simplement pour dire qu'on a le choix de choisir entre les ténèbres ou la lumière. Demande-toi toujours, est-ce que c'est la chair, comme Ève? Est-ce que c'est agréable pour mon corps? La cigarette, les filles, les garçons? Est-ce que c'est agréable à mes yeux? Boîte de nuit, etc. Ou alors est-ce que c'est bon pour mon orgueil, ma fierté? Posséder mieux, simplement pour crâner? Voilà ces trois questions que tu dois te poser quand tu es devant un tel choix. On va lire dans Éphésiens 5.8. Éphésiens 5.8, c'est dans le Nouveau Testament. Parce qu'on s'aperçoit que en lisant le Nouveau Testament, Dieu nous parle beaucoup d'enfants. Et Paul, souvent il dit « petits enfants, mes enfants ». Pourquoi? Parce que Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Voilà, elle nous est donnée. Avant, vous étiez dans les ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. Marchez dans la lumière. La Bible nous dit que nous sommes lumière. Nous ne sommes pas une lumière. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Et on va en parler aussi tout à l'heure. En fait, le diable fait croire aux enfants de Dieu que ses offres alléchantes sont meilleures que celles de Dieu. Le péché, c'est quoi simplement? C'est accepter ce que dit le diable comme étant vrai, au lieu d'accepter ce que dit Dieu. Alors on va voir deux choses que le diable nous fait croire. Les mauvaises compagnies. En fait, c'est simplement comme si vous étiez dans un magasin et vous voyez là une magnifique salade verte. Vous aimez trop la salade. Bon, je sais pas si vous aimez la salade. Mais bref, elle est trop belle, vous passez en caisse, vous êtes bien content. Et vous arrivez chez vous, là vous commencez à enlever la première feuille de la salade. Et là, il y a des énormes verres, et des verres blancs, des verres jaunes, des verres marrons si vous voulez. Et des verres rouges qui sont là. En fait, ça vous paraissait bon à votre vue, ça vous paraissait agréable. Mais en fait, en ouvrant et en regardant à l'intérieur, comme dans une orange qui serait pourrie de l'intérieur, vous vous apercevez que c'est pourri. Voilà ce que fait le diable. Et voilà ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Le diable nous fait croire que si nous choisissons de lui obéir, ça va être très bien. Ça va être mieux que ce que Dieu nous propose. Mais en fait, quand nous goûtons à cette chose-là, ça peut prendre un mois, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre des années. Nous allons découvrir la pourriture que le diable te propose. Parce que le diable te propose pas quelque chose de bon. Vous savez, il vous aime pas, le diable. Par contre, Dieu vous aime. C'est pour ça que Dieu vous donne quelque chose de bon. Vous préférez habiter chez qui? Chez quelqu'un qui vous aime pas et qui vous maltraite? Ou chez quelqu'un qui vous aime? On préfère tous habiter chez quelqu'un qui nous aime. Et les personnes que vous fréquentez affecteront votre vie tout entière. Quand j'étais jeune, j'ai eu de ces relations où vraiment je les ai regrettées. Je les ai regrettées vraiment. Parce que je sais que j'ai perdu vraiment des mois et des années où j'aurais pu évangéliser mes profs, j'aurais pu amener des gens au Seigneur. Bon, je parlais du Seigneur. Mais comme ma vie était une vie pleine de péchés, Dieu pouvait pas intervenir. Parce que ces gens auraient cru que Dieu, tiens, on fait ce qu'on veut avec le Seigneur. Mes amis, la jeunesse, c'est vraiment quelque chose d'important. Goûtez, appréciez, appréciez et appréciez vos années de collège et de lycée. Appréciez votre jeunesse. Il faut qu'on apprécie vraiment notre jeunesse. Dieu nous demande pas de cracher sur les gens du monde. Il vous demande pas de cracher sur les gens qui sont pas chrétiens. Mais dans des choses essentielles, comme le mariage par exemple, ou comme être avec quelqu'un, Dieu nous demande de choisir quelqu'un qui est chrétien. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi Dieu veut pas que vous soyez avec des gens qui sont pas chrétiens? Si vous voulez avoir comme beau-père le diable, vous faites ce que vous voulez. Mais mes amis, Dieu vous protège. Dieu veut vous préserver. Dieu veut pas que vous soyez avec n'importe qui. On peut être avec des gens. On a des gens partout qui sont pas sauvés. On peut leur parler, on peut s'amuser avec eux. Mais on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Et le diable vient nous faire croire souvent que tel ami sera meilleur que celui-là. Et on a le choix. On a le choix. On a un choix à faire. La deuxième chose, c'est les relations amoureuses. Et là aussi, j'en ai regretté. En fait, tiens, j'avais oublié ça. Quand j'étais en quatrième, j'avais même fait un livre. Bon, c'est la honte pour moi, mais je vous le dis quand même. J'avais même fait un livre où je notais le nom et le prénom des filles avec qui j'étais sorti et je leur mettais des étoiles. Parce que je me disais, peut-être dans 3 ans, je pourrais les rappeler et les revoir. Voilà ce que je faisais. Il y avait quelques pages, hein, je vous avoue. Sérieusement, ça nous fait rire, mais mes amis, je regrette profondément ces choses et je vous assure que vous allez les regretter aussi. Je vous assure, je peux vous l'assurer, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Parce que peut-être vous allez voir une porte qui est magnifique. Où là, il y a plein de flèches qui vous indiquent joie, paix, amour, abondance, fête. Mais quand vous allez rentrer dans ces choses, vous allez les regretter. Et j'ai regretté vraiment mes mauvaises compagnies et mes relations amoureuses. Là, tout y est, la convoitise, l'orgueil, la chair, les yeux. Tous les ingrédients sont réunis là. Voilà pourquoi le diable tente souvent les enfants de Dieu avec ces choses. La tentation du diable et son schéma, comment il vous amène dans le péché, c'est toujours le même. Il n'a pas changé parce qu'il n'est pas très intelligent. Le diable n'est pas très intelligent, il est sous nos pieds. C'est toi qui vas décider s'il est sous tes pieds ou s'il gouverne ta vie. Quand tu vas commencer à accepter ce qu'il te donne, il va commencer à gouverner ta vie. alors tu as vraiment un choix à faire. Si tu choisis de suivre le diable, tu auras peut-être l'impression, parce que c'est toujours une impression, peut-être quelques jours ou quelques semaines, de jouir de ton péché, d'être dans une situation où tu es super. Tu croiras même peut-être que c'était le bon choix pendant un moment. Mais comme Adam et Ève, tu vas te retrouver tout nu. Qui c'est qui aimerait se retrouver tout nu là maintenant devant nous tous? Je désigne quelqu'un? Imaginez une chose. Quand vous péchez, vous devenez tout nu. Si on attendait ici, jusqu'à ce que le premier d'entre nous pêche. Et quand il pêche, tout de suite il se retrouve tout nu. Voilà ce que fait le péché. Alors qu'est-ce que vous feriez? Vous iriez vous cacher derrière le pupitre, mais malheureusement il est transparent. Alors vous prendriez une fleur et là vous serez comme Adam. Mais réellement on est tout nu. Voilà ce que fait le péché, il vous pourrit la vie. Il vous rend tout nu. Excusez-moi l'expression. Mais c'est ce que fait le péché. Vraiment, c'est pas un message, vous savez, pour vous condamner, vous dire le péché. Mais il y a vraiment un message dans le cœur de Dieu pour la sanctification. La Bible dit, dans les derniers temps, vos jeunes filles, vos jeunes garçons auront des visions. Ils auront des songes, ils auront des paroles de connaissance. On a commencé des réunions de jeunes, comme vous faites en ce moment, il y a quelques années. Et là, il y avait plein de jeunes. Et pendant 5 semaines, une fois, par exemple, le Seigneur m'a utilisé semaine après semaine pour dire, toi, par exemple, tu as été abusé par quelqu'un. Toi, ton oncle te veut du mal. Toi, tu as essayé de te suicider plusieurs fois. Toi, tu es dans une sécheresse spirituelle intense. Mes amis, Dieu veut utiliser la jeunesse. Il veut vous utiliser. Mais je vous en prie, je vous en supplie, ne choisissez pas le péché. Ne choisissez pas le péché. Le péché pue, le péché est pourri. Le péché va vous pourrir la vie. Voilà ce que va faire le péché. Vous allez vous retrouver tout nu, vous allez le regretter amèrement. Dieu vous aime et parce qu'il vous aime, il veut que vous restiez pur. Pur pour l'homme ou la femme que Dieu a choisi pour vous et que vous allez rencontrer un jour. Quand vous allez vous marier, si vous avez choisi de rester pur, votre mariage va prendre une tournure différente. Aimez déjà la personne avec qui vous allez vous marier, même avant de la connaître. On se marie avec qui? Avec quelqu'un qu'on aime. Vous savez que la personne avec qui vous serez, vous allez l'aimer. Et alors comment lui démontrer votre amour déjà maintenant? En faisant pas n'importe quoi avec votre corps. Et en acceptant d'attendre le jour où vous allez vous marier avec lui ou avec elle. Parce que vous l'aimez déjà. Et Dieu nous a déjà aimés. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la croix mourir pour nous. Voilà pourquoi il a accepté de porter nos souffrances. Voilà pourquoi il a accepté d'être cloué, d'être fouetté. Parce qu'il nous aimait déjà. Et je vous en prie, aimez déjà la personne avec qui vous allez vous marier. En faisant pas n'importe quoi avec votre corps. Je vous l'assure, vous allez le regretter amèrement. Vous allez le regretter amèrement. J'ai cru pouvoir moi-même goûter au paradis du diable, entre guillemets. Mais au final, ce fut un enfer. Je me rappelle donc là, quand j'étais en train de sortir avec des filles. Un jour, j'étais là et ça allait pas bien avec cette fille-là. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à Dieu, mais vraiment, j'en ai marre. J'ai pris conscience que, voilà, la vie que je menais, c'était pas une vie qui lui plaisait. Et j'ai dit, mais où ça va aller comme ça? Est-ce que je vais réussir à construire quelque chose ou est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Et là, j'étais repentant devant Dieu. Et mon cœur a été brisé, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je veux plus faire ça. Je veux plus agir comme ça. Et là, Dieu m'a parlé. Je peux dire presque audiblement. Dans mon cœur, c'était très fort. Il m'a dit, voici la femme que tu vas rencontrer, la femme que j'ai pour toi. Elle s'appellera d'un prénom. T'as rencontré personne qui s'appelle comme ça dans ton entourage. Et elle sera aussi très différente de tout ce que t'as connu. Effectivement, quand j'ai rencontré ma femme, c'est plus tard que je m'en suis souvenu. Elle s'appelait Annabelle. J'avais jamais connu d'Annabelle dans mon entourage. Elle était asiatique. J'avais peut-être même jamais parlé à une asiatique. En tout cas, j'avais aucune asiatique comme amie. Voilà, Dieu m'avait parlé. Et si vous êtes avec un cœur repentant, choisissant la vie de Dieu, de l'obéir, Dieu va vous parler. La Bible dit, si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. On va lire dans 1 Jean, au chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il demeure éternellement. Si tu as péché, sache que tu es un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui s'est livré pour toi. Et aujourd'hui, tu as une décision à prendre. La Bible nous dit aussi dans 1 Jean, au chapitre 2 et au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Mes petits enfants, ne péchez point. Voilà ce que Dieu vous dit. Dieu n'est pas en train de vous dire, mais voilà, je veux pas votre bien, je veux pas votre bonheur. Il est en train de vous dire, non, ne péchez point parce que ça va vous faire du mal. Je vous disais donc que j'avais demandé pardon à Dieu. Et Dieu m'a dit vraiment, tu vas rencontrer cette fille-là, ça s'est accompli. Aujourd'hui, je suis marié avec cette femme. Comme dit l'Ecclésiaste, j'ai goûté à tout, mais tout est vanité en dehors de son plan et de la volonté qu'il a pour ta vie. Et pour remercier le Seigneur, j'ai même eu une fille et je l'ai appelée Éden. Parce qu'en Éden, Dieu a tout accompli pour que tu sois heureux. Dieu, en Éden, a tout accompli. La Bible nous dit, voici les projets et les plans que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner non seulement une espérance, mais un avenir en Christ. Dieu, dès l'origine, avant même que tu naisses, avait un plan pour ta vie. Et aujourd'hui, à la seconde où je vous parle, Dieu a un plan pour ta vie. Où es-tu en ce moment? Est-ce que tu es dans les ténèbres? Ou est-ce que tu es dans son plan? Crois en Dieu. L'enfant n'est pas religieux. On a vu que l'enfant était saint, sans péché. Maintenant, l'enfant n'est pas religieux. Dieu vous aime, vous savez. Et trop longtemps, les gens ont cru que le meilleur était hors de Dieu. Trop longtemps, les gens ont cru que le diable donnait des meilleures choses que Dieu. Mais la volonté de Dieu pour nos vies est de loin la meilleure. On va lire dans 1 Jean encore, au chapitre 2, au verset 28. L'enfant n'est pas religieux, c'est-à-dire qu'il est en communion avec Dieu. Dieu veut qu'on ait une communion avec lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. C'est ce que nous avons chanté, « Je demeure en toi », afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Au verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous pouvons gratuitement demeurer en Jésus, parce que nous sommes ses enfants. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire la présence de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire toucher le manteau de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire le meilleur de Dieu? Imagine la meilleure chose pour toi. Peut-être vous avez envie d'avoir des choses à Noël, je sais pas trop quoi. Hier, j'avais une petite feuille, je sais pas qui c'est, hein. Et je veux être super riche. Regarde les têtes pour savoir qui c'est. Donc ça, c'est une personne qui veut être super riche. Si c'est pour le Seigneur, gloire à Dieu. Dieu veut lever une génération de gens prospères pour lui. Dieu veut lever des générations et des jeunes qui ont des visions de prospérité. Donc voilà, la personne, elle veut être super riche. Peut-être votre vie, c'est vous avez des envies, vous avez des désirs qui sont très grands. Ça, c'est vraiment votre désir. Mais sachez que le plan de Dieu pour votre vie est meilleur que tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Le plan de Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, est meilleur que tout ce que vous pensez ou vous pouvez imaginer, désirer. Le plan de Dieu est meilleur que ça. Le plan de Dieu est meilleur que ça. Dieu veut vraiment vous toucher. Dieu veut vous bénir. Quand j'ai été touché personnellement par Dieu, j'avais 19 ans. C'était le 1er janvier 2003. Là, j'étais dans ma voiture et j'ai commencé à prier. C'est là que Dieu m'a touché. Et Dieu m'a touché, mais cela est arrivé parce que j'avais soif d'être touché par lui. Et j'étais là dans ma voiture et pareil, j'étais là en train de dire à Dieu, mais je vivais plus dans le péché. J'étais en train de dire à Dieu, je veux plus de toi. J'en ai marre d'entendre parler de toi tout le temps et de pas te voir agir dans ma vie. J'en ai marre qu'on me dise tout le temps, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Mais pour moi, Dieu est loin. Je l'entends pas. Qu'est-ce que je vis avec lui? Et j'ai commencé à parler à Dieu sincèrement, à lui dire, mais Seigneur, je veux plus de toi. Je veux te connaître. Je veux avoir une communion avec toi. Je veux pas être quelqu'un de religieux parce que la religion ça pue. Et là Dieu a commencé à me toucher, j'ai commencé à pleurer. Et Dieu a commencé, vous savez, le feu de Dieu vient pour purifier les cœurs. On a chanté le feu de Dieu, je veux ton feu Seigneur. Mais qu'est-ce que fait le feu de Dieu? Quand Dieu te tombe dessus, peut-être tu tombes par terre, peut-être tu pleures, peut-être ça se passe intérieurement. Mais quand le feu de Dieu tombe sur toi, c'est pour te purifier avant tout. Et c'est pour t'amener plus loin avec lui et commencer à goûter des choses nouvelles. Et voilà ce que Dieu a fait ce 1er janvier 2003. Et là, j'ai commencé à pleurer tellement, je pleurais, j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route, à quelques centaines de mètres de chez moi, tellement je pouvais plus conduire. Et là, j'ai comme vu Dieu, mes amis, venir dans ma voiture. Je peux voir le Seigneur venir dans ma voiture. J'ai pas vu ses yeux, j'ai pas vu sa bouche, mais je l'ai vu. Venir dans ma voiture, sa présence de paix, sa présence de joie, sa présence d'amour qui était là. Et là, je suis né de nouveau. Dieu est venu habiter en moi. Et vous savez quoi? Je l'ai vu repartir. Mais le Saint-Esprit était là. Parce que le Père est au ciel. Jésus est à la droite du Père, mais nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est resté là, je me rappelle quand je me suis couché, tellement sa présence était là, elle était glorieuse, elle était puissante. Ça m'aurait pas étonné qu'à tout moment Jésus vienne et entre dans ma chambre, tellement sa présence était là. Dieu veut toucher la jeunesse. Dieu veut te toucher. Dieu veut que tu vives quelque chose de personnel et de puissant avec lui. Ce n'est pas aux autres de te dire ce que tu dois faire. C'est pas à toi d'aller vers les autres, mais c'est à toi d'amener les autres au Seigneur. C'est à toi d'être un exemple. Vous n'allez pas leur donner envie d'accepter le Seigneur en pratiquant une religion. Vous allez leur donner envie d'accepter le Seigneur quand ils vont voir que vous avez quelque chose de plus. On a vu dans nos réunions de jeunes des jeunes et des jeunes et des jeunes se donner à Christ. Des gens qui étaient dans des problèmes, mais des jeunes, mais de tout genre de jeunes. Mon beau-frère lui-même, il était rasta. Il fumait des joints. J'ai eu des discussions avec lui sans fin. Et je me rappelle, c'était en août, il y a à peu près 3 ans. Je lui ai parlé du Seigneur comme jamais. Et je suis ressorti de là, j'ai dit, mais jamais il se convertira. Parce qu'il était tombé tellement bas. Il avait même la photo de cette idole, de ce que les gens, le Rasta adore, qui s'appelle Eli Selassie. Il avait mis cette photo dans sa maison. Et je me disais, mais voilà, vraiment, il est tombé trop bas. Et pendant un mois, je travaillais dans la sécurité. Je travaillais dans un camping, dans ma voiture, et en fait, je surveillais le truc. Et pendant un mois, tous les soirs, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu qu'il le touche. Jour après jour, j'ai dit, Saint-Esprit, tu es plus puissant que n'importe quel mauvais esprit, plus puissant que n'importe quelle situation. Et je me suis attendu à Dieu. À la fin du mois, nous avons fait une réunion chez lui-même. Et là, il est arrivé après son travail. C'était ma sœur qui nous avait ouvert et tout ça. On a fait cette réunion-là. Il est arrivé, là, il a vu des jeunes adorés comme jamais il avait vu. Il a vu des jeunes enflammés pour le Seigneur. Il a vu des jeunes qui avaient quelque chose de plus que lui. Et il a commencé à lire la parole. Il a été dans Apocalypse et il a vu que seul Jésus était digne d'ouvrir les 7 seaux. Que seul Jésus pouvait le sauver. Et là, il est né de nouveau. Et aujourd'hui, il travaille pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez Gwende. Voilà, c'est Gwende, non? C'est mon beau-frère. Et maintenant, il travaille pour le Seigneur, il œuvre pour le Seigneur. C'est un artiste chrétien. Donc vos amis, même s'ils vous paraissent loin du Seigneur, Dieu peut les toucher. Dieu n'est pas loin. On a vu que l'enfant était saint, sans péché. On a vu qu'il n'était pas religieux. Maintenant, l'enfant croit tout ce que Dieu dit. Dieu avait dit à Abraham et Sarah, voici, il leur avait fait une promesse. Je vous donnerai un enfant. C'était vraiment la promesse, et cette promesse, elle prend une partie importante dans l'Ancien Testament. Cette promesse d'avoir un enfant, elle prend une place importante dans l'Ancien Testament. Abraham, tu auras un enfant. Regarde les étoiles. Telle sera ta postérité. Mais voilà que Abraham et Sarah sont devenus vieux, et ils n'avaient plus la capacité d'avoir un enfant. Ils n'avaient plus cette capacité-là. Mais Dieu a fait un miracle. Et dans les derniers temps, Dieu a besoin de filles et de fils qui le servent. Aujourd'hui, mes amis, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin d'un enfant. Dieu a besoin d'un enfant. Quand je l'ai accepté, il a commencé à se passer des choses dans ma vie. Je commençais à avoir des songes et des visions. Le Seigneur a commencé à me parler. Et c'est ce qu'il veut faire avec la jeunesse, car il a dit, vos jeunes gens auront des visions. On peut vous proposer n'importe quoi, mais on ne vous proposera pas des paroles de connaissance. On ne vous proposera pas de bénir les gens. On ne vous proposera pas d'arriver vers votre voisin. Le soir même, la veille, il s'est fait frapper par ses parents. Et tellement vous êtes consacré, le Saint-Esprit vous dit, voilà, lui, tu vas lui dire, hier soir tu t'es frappé par tes parents, mais Dieu a un plan pour ta vie. Vous savez, ça touche les gens. Et Dieu peut vous utiliser dans ce domaine-là. Dieu cherche un enfant. Dieu cherche un fils et une fille. Psaume 8, verset 2. Éternel, notre Seigneur. Il faut savoir un truc par rapport à l'Ancien Testament. Avant de me convertir pleinement, je lisais beaucoup l'Ancien Testament, j'aimais bien les psaumes. En fait, je voyais qu'il était parlé tout le temps de l'éternel, l'éternel, l'éternel. Et un jour, un frère m'a dit une chose, c'est Michael, il travaille avec moi sur enseignemoi.com. Il m'a dit, mais pourquoi tu dis tout le temps éternel, éternel dans tes prières? C'est vrai, il est éternel. Mais d'abord, avant tout, il est ton père. Il est ton papa. Et à partir de ce moment-là, ma vie spirituelle a été transformée. Quand j'ai commencé à comprendre que Dieu n'était plus seulement l'éternel, le Dieu lointain, mais qu'il était mon père. Psaume 8 au verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi. Dieu a choisi les enfants pour être un rempart contre le monde des ténèbres, pour être un rempart contre le monde diabolique. Dieu n'a pas choisi les gens qui sont fiers. Dieu n'a pas choisi les orgueilleux. Dieu t'a choisi toi pour être un rempart et pour être utilisé par sa main glorieuse. Si Dieu a mis ça dans sa parole, dans les psaumes, voici j'utiliserai par la bouche des enfants, Je réduirai à néant mes adversaires. C'est parce qu'il veut t'utiliser. Dieu veut utiliser les jeunes. Les deux femmes de Dieu que j'ai vues être puissamment utilisées par le Seigneur, le plus. Une s'appelle Catherine Kuhlman. Vous en avez peut-être entendu parler. Cette femme, elle était comme un enfant devant Dieu. Il y a des gens qui lui reprochaient même ça. Tellement elle était simple. Elle était comme un enfant. Elle pouvait se mettre à rire alors qu'elle était en train de prêcher. Pour un rien. Elle était comme un enfant. Elle avait un cœur d'enfant. C'est quoi un cœur d'enfant? C'est un cœur qui suit Dieu. La deuxième femme que j'ai vue, elle s'appelle Eddie Baker. Elle s'occupe elle-même d'un orphelinat, d'un énorme orphelinat au Mozambique. Et cette femme-là, quand je l'ai vue prêcher, le Seigneur m'a montré combien j'étais religieux encore et combien j'avais besoin d'entrer dans la liberté qu'il m'avait offerte. Parce que le péché, on peut se dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut me rendre esclave. Non, Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois libre. Et quand j'ai vu cette femme-là, elle était à genoux et chantait avant de prêcher. J'avais jamais vu un homme ou une femme de Dieu d'une telle simplicité. Et ça m'a touché. Et Dieu répond et répond à sa parole par des gens comme ça. Parce qu'il y a même des hommes de Dieu. Ils ont créé des églises, ont créé quelque chose. Ils pensent qu'ils sont tout puissants. Voilà tout ce que j'ai fait. Mais quand ils commencent à dire, Seigneur, je ne suis rien, je suis un enfant, Dieu commence à faire quelque chose de merveilleux. Voici pourquoi Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Partout dans les évangiles, les enfants suivaient Jésus, étaient autour de Jésus. Il était tout le temps à côté des enfants. Parce que Jésus avait dit aux disciples de pas empêcher les enfants de venir à lui. Les disciples, ils éloignaient certaines personnes, mais les enfants, ils pouvaient pas y toucher. Parce que Jésus avait parlé. Et cette parole demeure. Si tu t'approches de Dieu, il va s'approcher de toi. Et si tu demandes comme un enfant, tu vas voir comme Catherine Kuhlman des miracles dans ta vie. Comme Eddie Baker, il voit des miracles créatifs. Des jambes qui repoussent. Des aveugles voir. Même quelqu'un est mort un jour dans sa réunion. Tellement il y avait la cohue, il y avait plein de monde qui était là, c'était des milliers de personnes. Il y a quelqu'un qui est mort comme ça. Elle a prié pour lui, ressuscité. Mes amis, c'est pas impossible. Arrêtons de croire et de regarder ce que les autres chrétiens vivent. Dieu nous a pas demandé de regarder aux autres chrétiens. Certes, il nous a dit de prendre exemple sur ceux qui vivent des bonnes choses avec lui. Mais Dieu nous demande de regarder d'abord à lui et à sa parole. Si Dieu a dit, voici en mon nom, vous accomplirez des miracles, des guérisons. C'est la vérité. Vous chasserez des démons. C'est la vérité. Ne dites pas, mais voilà en France, en Belgique, n'importe où. Voilà ce qui se passe, Dieu n'agit pas. Comment Dieu pourrait agir à travers moi puisqu'il n'agit pas à travers de cet homme de Dieu? Non, croyons à ce que dit la parole de Dieu. Dieu veut utiliser la jeunesse. Peu importe le regard des gens, la moquerie de tes amis, peu importe. Deviens un enfant. Deviens un enfant. Aie un cœur d'enfant. Deviens un enfant pour Dieu. Laisse de côté ton péché, laisse de côté ta fierté, laisse de côté ce que tu veux prouver. Et deviens un enfant. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux. Pour ceux qui sont comme eux. Jésus savait une chose. C'est pour ça qu'il a dit ça. Il savait que dans le cœur de Dieu, il y a une importante place pour la jeunesse. Dans le cœur de Dieu, il y a une place importante pour la jeunesse. Et nous devons demeurer en lui. Quand il viendra nous chercher, vous savez, on sera semblable à lui. Il y a un frère qui m'a dit tout à l'heure que hier soir encore, il était avec une fille. Cette fille a pris la gare du Nord. Elle avait 25 ans environ, c'est ça? 25 ans, à peu près à nos âges. Elle a pris la gare du Nord, elle est arrivée chez elle en Belgique. Elle est morte. Crise cardiaque. Vous connaissez la gare du Nord? Elle a pris la gare du Nord, elle arrive chez elle, elle est morte. Vous savez, ça c'est pas le plan de Dieu. On sait pas pourquoi c'est arrivé. Mais ce que je sais, c'est que vous devez utiliser votre jeunesse et racheter le temps. Et Dieu veut utiliser, il veut utiliser. Et tout à l'heure, on va prier. Et Dieu va déposer des dons dans vos cœurs. Et vous allez commencer à vivre. Si vous décidez aujourd'hui de vivre une vie qui lui plaît, Dieu va commencer à vous toucher. Et vous allez voir dans les prochains jours des choses se manifester dans votre vie. J'ai dit à mon beau-père, le père de ma femme, il est venu me voir en début d'année, il m'a dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Ça faisait la première fois que je parlais avec lui comme ça. J'ai dit, ok, on va prier pour toi. Cette semaine, attends-toi au Seigneur. Il n'était pas sauvé. Le mardi soir, c'était le samedi soir qu'il m'a dit ça. Le mardi soir, il arrive chez lui, là il a une vision ouverte de la croix. Il rentre de son travail, c'était la nuit, il voit une croix comme ça, dans son jardin. Il est à côté de son garage, illuminé. Et là, il avait envie de pleurer. Si vous priez, et si vous croyez en Dieu, Dieu va toucher les gens autour de vous. Qu'ils soient jeunes ou vieux. Cet homme-là, il n'était pas religieux. Il était loin de Dieu. Mais face à la prière et la puissance de Dieu, il a été touché. Et Dieu, vous utilisez comme ça. Quand il viendra nous chercher, on sera semblable à lui. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit de racheter le temps. N'attendez pas d'avoir 30 ans, 50 ans pour être de puissants hommes de Dieu comme Bunke ou comme Osborne ou comme je sais pas qui. Non, Dieu peut vous rendre puissant. Puissant en parole, puissant en acte, puissant dans votre collège. En Afrique, il y a des jeunes qui prêchent dans les collèges, ils arrivent à avoir une salle comme ça, et ils commencent à prêcher dans leur collège, ils voient des jeunes et des jeunes et des jeunes se donner au Seigneur. Dieu est puissant. Il peut amener vos amis à Christ. Il peut les amener au Seigneur. Quand il viendra nous chercher, nous serons semblables à lui. Sa gloire va nous envahir. Mais pendant ce temps, est-ce qu'on va rester? Quand il va venir, est-ce qu'on va rester? Dans le jardin d'Éden avec le serpent? Et avec ce fruit pourri? Ou est-ce qu'on va accepter de le suivre? Et aller avec lui, être transformé? Je trouve que dans l'église, en général, on parle pas assez du ciel. Mais c'est vrai, la Bible nous donne certains versets, mais on sait pas tout du ciel. Au contraire, on sait vraiment pas tout du ciel. Mais le ciel, on sait une chose, ce sera merveilleux. Ce sera merveilleux. Merveilleux. Plus que tout ce que vous avez pu vivre. 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai pas besoin de paraître maintenant. Et quand vous allez prendre la décision tout à l'heure, peut-être certaines personnes d'entre vous, vous aurez plus besoin de paraître plus grand. Parce que celui qui vit en vous est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Est plus grand que le diable. Est plus grand que les mauvais esprits. On commence avec le frère, avec enseignement.com. Aujourd'hui, il y a à peu près 5000 personnes qui visitent le site par jour. De toute l'Europe, de tout le monde. Le Seigneur nous a donné cette vision il y a 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Et aujourd'hui, il utilise ce site pour sa gloire. Et là, très dernièrement, on commence à être invité à des réunions de jeunes comme celle-là. La dernière fois, on était en Belgique et les jeunes sont restés là pendant 3 jours. On a prêché environ 4 fois. Et le samedi soir, juste avant que je parte, mon ami a prêché. Bon, il y a des jeunes qui se sont donnés au Seigneur. Et après, on a dit, bon, si vous avez des questions à nous poser, vous pourrez nous les poser. Il y a une fille qui a commencé à me dire, ben, est-ce que tu pourrais prier pour moi? J'ai commencé à prier pour elle. Une autre fille qui a demandé à Michael de prier pour elle. Il a commencé et là, la gloire de Dieu est descendue. Sa gloire était là. On contrôlait plus rien. Il contrôlait tout. On arrivait devant une personne. J'arrive devant une personne pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur me met à cœur de lui parler de l'amour du Père. L'amour du Père. Et je lui dis, tu sais, Dieu t'aime plus qu'un Père. Dieu t'aime plus qu'un Père. Dieu t'aime plus qu'un Père. Et je lui dis, il y a un problème dans ta vie qui t'empêche de recevoir le baptême du Saint-Esprit. T'as un problème de pardon avec quelqu'un. Et là, il se met à pleurer et commence à m'expliquer, tu sais, mon Père ne m'a jamais donné l'amour que j'avais envie. J'arrive pas à l'aimer. Voilà ce que Dieu fait. Il y a une fille qui était là, qui était sous l'emprise de mauvais esprits. Les mauvais esprits se sont manifestés, ils ont commencé à nous parler. Elle a été libérée. Elle a été guérie d'un ulcère. Une autre fille qui était là, il y avait à peu près 3-4 personnes qui ont été libérées de mauvais esprits. Mais qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Mais Dieu est tout puissant et celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Il y a des gens autour de vous. La Bible dit que le diable est le dieu de ce siècle. Ça veut dire quoi? Qu'il est là sur la terre. Il a été projeté, je vous l'ai montré dans Ésaïe. Il a été projeté sur la terre. Et son but, lui aussi, c'est de racheter le temps. Et d'amener le plus de gens à lui. Et autour de vous, il y a des jeunes qui souffrent. Peut-être vous les voyez, ils sont tout fiers à l'école. Et moi-même, j'étais très fier. J'étais très fier au collège. Mais ce que les gens savaient pas, c'est que parfois je pleurais chez moi. Mon frère me frappait. Alors je me suis mis à faire du judo. C'était pas assez violent. Je me suis fait faire de la boxe thaï. J'ai fait le championnat de France à Paris parce que je voulais devenir plus fier. Parce que je voulais devenir plus grand. Être plus grand. Et ce que je vivais à la maison, ça m'a donné une colère. Mes parents ne savaient pas tout ça. Mais un jour, mon frère lui-même s'est retrouvé dans une réunion comme vous allez les faire. Et là, le Saint-Esprit est descendu aussi sur toute la réunion. On était tous à genoux. Il y avait sa gloire qui était là. Il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il est venu me demander pardon. Et sa vie a été changée. Dieu veut utiliser la jeunesse. Il a mis en toi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit est une personne. Et tu peux lui parler. Jésus a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car je vous laisse le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est un enseignant, un avocat. Qui ne parle pas à son enseignant? Qui ne pose pas des questions à son enseignant? Qui, lorsqu'il est devant un problème et qui doit être devant un juge, ne parle pas à son avocat pour lui expliquer la situation? Vous pouvez parler au Saint-Esprit, il est là tous les jours avec vous. Il est là tous les jours avec vous. On va lire un dernier verset dans Philippiens 2:15. Dieu nous cherche, il veut nous utiliser pour sa gloire. Une des caractéristiques de l'enfant, c'est aussi qu'il aime et qu'il croit en Dieu. Alors on doit aimer son prochain. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Quand Dieu vous parle au sujet d'une personne, faites-le sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous devons recevoir et laisser couler l'amour de Dieu au travers de notre vie pour ceux qui nous entourent. Tu dois laisser couler l'amour de Dieu. Dieu veut que nous soyons des flambeaux dans ce monde. Ce n'est pas les autres qui doivent nous attirer, ce sont les autres qui doivent être attirés par la parole de vie que tu portes. J'ai moi-même un ami footballeur, il s'appelle Oscar Evolo, il est en Ligue 1. Et ces gens qui sont dans le football et qui sont en Ligue 1, vous savez, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils vivent des fêtes, ils ont des filles, ils ont tout ce qu'ils veulent, toutes les voitures qu'ils veulent. Mais lui, tellement qu'il est plein de Dieu, qu'il a soif de Dieu, il fait que de prêcher l'évangile. Il fait que de prêcher l'évangile. Et il voit des jeunes et des jeunes se donner à Christ. Des jeunes footballeurs se donner au Seigneur. Nous avons mieux à offrir à la jeunesse. Nous avons mieux à offrir à la jeunesse. On va fermer nos yeux, s'il vous plaît. Merci, Jésus. Fixons nos yeux sur le Seigneur. Le Seigneur vous a dit des choses ce matin. Et ça vous a parlé à certains d'entre vous. Saint-Esprit, maintenant, s'il te plaît, viens. Et viens confirmer ta parole. Viens confirmer ta parole. Il y a peut-être parmi nous des jeunes qui sont pas certains que s'ils mouraient aujourd'hui, ils iraient près de Dieu. Peut-être tu n'es pas certain ce matin d'aller au ciel si tu mourais maintenant. Je ne parle pas du péché. Nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Je parle de recevoir le salut. Peut-être ce matin tu te dis, mais j'ai entendu toutes ces choses et ça se trouve je suis pas sauvé. Si tu n'as pas la certitude d'être sauvé, je t'invite à t'approcher. Ne sois pas fier et orgueilleux devant le Seigneur, mais sois comme un enfant. Sois comme un enfant. Peut-être tous sont sauvés, mais si tu n'es pas certain d'être sauvé, approche-toi, s'il te plaît. Approche-toi, s'il te plaît, alors que tous les yeux sont fermés. Et tu peux recevoir maintenant le salut gratuitement et entrer dans une nouvelle vie. N'attends pas, s'il te plaît. Lève-toi maintenant. Et aujourd'hui est un jour nouveau pour toi dans le nom de Jésus. Accepte le Seigneur aujourd'hui, parce qu'il a des plans et des projets pour ta vie. Je parle ici de recevoir le salut, recevoir le Seigneur. Alors que tous les yeux sont fermés, je vais prier pour vous. Et je vais vous demander de répéter simplement à haute voix cette prière après moi. C'est pas une recette magique, mais c'est simplement, la Bible dit, si vous croyez de votre cœur et que vous confessez avec votre bouche, devant les hommes, le diable et les autorités, et devant moi-même, vous serez sauvés au moment même où vous allez confesser que je suis Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Je prie pour ces jeunes, comme tu as touché ma vie et que tu l'as transformée. Et Père, combien de fois je pleure en te remerciant pour ce que tu as fait dans ma vie. Je prie qu'ils soient aussi touchés au plus profond d'eux-mêmes et qu'ils deviennent de nouvelles créatures dans leur esprit et que toutes choses deviennent nouvelles dans leur esprit et qu'ils soient rafraîchis dans leur âme, dans leur pensée, dans leur désir, dans leur volonté. Saint-Esprit, touche leur vie maintenant. Peut-être il y en a encore un qui hésite. N'hésite pas et lève-toi auprès du Seigneur. On va répéter cette prière à haute voix. Vous pouvez répéter après moi. Père, merci pour ta parole. Ce matin, tu m'as parlé. Je crois que c'est toi qui m'as parlé. J'ai entendu ces paroles et je veux prendre une décision. Aujourd'hui, je crois que c'est un jour nouveau. Père, je te demande pardon pour tous mes péchés. Toutes les fois où je t'ai déplu. Toutes les fois où je suis passé à côté de ta volonté, Père, pardonne-moi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Ça veut dire que je t'accepte pour que tu me guides et que je ne sois plus mon propre maître, mais que tu guides ma vie dans ton amour. Je crois en toi, Jésus. Et je crois que tu es venu sur la terre afin de me montrer un exemple et afin de porter les péchés que je ne pouvais pas porter. Je crois que tu es mort et ressuscité afin de me donner la vie éternelle. Et je reçois aujourd'hui la vie éternelle dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus, merci pour ton salut. En toi, j'ai reçu un héritage. Tu m'as délivré de la pauvreté. Tu m'as délivré des angoisses. Tu m'as délivré du péché. Tu m'as délivré, Seigneur Jésus. Je te reçois dans ma vie. Maintenant, Saint-Esprit, viens sur moi et remplis-moi. Baptise-moi, s'il te plaît. Saint-Esprit, la Bible dit que tu as été donné aux hommes pour être un compagnon. Je t'accepte maintenant. Agis dans ma vie. Amen. Le Saint-Esprit veut utiliser la jeunesse. Maintenant, j'aimerais, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent être utilisés par le Seigneur, vraiment ceux qui ont soif, peu importe le monde, le nombre, ça je m'en fiche un peu. Ce que je veux voir, c'est des gens qui ont soif. Et c'est ce que je veux voir. Si tu as soif que Dieu t'utilise, si ce que je t'ai dit, ça t'a touché, et tu veux que ça se passe aussi dans ta vie, si tu n'es pas aussi baptisé du Saint-Esprit, viens ici, approche-toi. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui va agir, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Moi, je peux rien faire, je peux pas toucher votre esprit. Mais lui peut toucher votre esprit, et lui peut vous déverser des dons ce matin. Approchez-vous dans la soif, fixez les yeux sur lui, fixez les yeux sur lui. Je sais qu'il y a d'entre vous plus d'une personne qui est appelée au ministère. Approche-toi. Il y a ici une personne, le Seigneur t'a dit que tu étais appelé au ministère, mais tu doutes. Tu doutes et tu luttes avec ça. Crois en Dieu pour ce qu'il a dit de toi. Ceux qui veulent recevoir la puissance de Dieu ce matin, je vais prier pour vous alors que les yeux sont fermés, s'il vous plaît. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, attendez-vous à Dieu, je vais prier pour vous. Peut-être il va y avoir des manifestations, mais jamais nous ne devons fixer nos yeux sur les manifestations. Mais nous devons fixer nos yeux sur le Seigneur. Merci Jésus. J'aimerais faire avancer ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit qu'on le reçoit gratuitement. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas un diplôme de sanctification, de sainteté. Le baptême du Saint-Esprit se reçoit gratuitement. S'il y a des personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit, alors que nous fermons nos yeux, vous pouvez vous avancer, on va prier pour vous. Et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. On va prier pour vous. Et je vous demande une chose, de croire en ce que la Bible dit. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. La Bible dit aussi, vous parlerez de nouvelles langues. Voici ce que vous ferez en mon nom. Avant, j'étais sec dans ma vie spirituelle, mais quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ma vie a changé. Et on a besoin de ce baptême de feu. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de lui. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. Avancez-vous, recevez la paix de Dieu, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. On va commencer à prier, on va commencer à louer le Seigneur. Le Saint-Esprit se reçoit alors que vous ouvrez la bouche. Vous n'allez pas voir un ange, vous n'allez pas voir une colombe. Ça va simplement sortir de vous. Des syllabes qui vont sortir de vous. Des syllabes qui vont sortir de vous. Dites-les simplement dans la foi. Commencez à les dire dans la foi. Et recevez le baptême du Saint-Esprit. Commencez à prier, commencez à dire au Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Je crois qu'alors qu'on va prier pour moi, je vais le recevoir. Je n'ai rien à faire sinon que de croire en toi et de recevoir. Saint-Esprit, baptise-moi maintenant. Saint-Esprit, baptise-moi maintenant. Saint-Esprit, viens. Crosto, cholo, crosto, cholo, crosto. Indene, mene, 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 bene, crosto, che, crosto, cholo, crosto. Ouvrez la bouche pour recevoir. Ouvrez la bouche pour recevoir. Ouvrez la bouche pour recevoir. Dites-lui merci. Ça va simplement couler de l'intérieur de vous jusqu'à votre bouche. Nemene, solo, croce, che, le, bene, bene, crosto, do, condo, mono, sho. salut. Encore une fois, chantons de tous nos cœurs.
Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu.
Saint-Esprit, je te demande de toucher cette personne.